les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. En RDC, les conflits de basse intensité continuent de miner plusieurs régions du pays. À preuve, les attaques des groupes armés signalées en fin de semaine dernière dans le Kasaï dans le centre du pays et l'Ituri dans le nord-ouest. Une position de l'armée congolaise a été attaquée dimanche matin dans la province du Kasaï central. Une source de l'armée qui a requis l'anonymat avance le bilan de 8 miliciens tués. Les miliciens ont incendié la maison d'un chef de village qu'ils accusent de délation en complicité avec l'armée. En Ituri, une incursion d'un groupe armé a tué 2 militaires et 3 civils, d'après l'administrateur du territoire de Djougou, Alfred Efo Loko. Au Cameroun, dernière ligne droite cette semaine avant la présidentielle du 7 octobre. Plus de 6,5 millions de Camerounais sont appelés dimanche à élire leur nouveau président pour donner ou non un 7e mandat au président Paul Biya. 85 ans, dont 35 au pouvoir. Jamais une élection camerounaise n'avait pris place, alors que l'armée est déployée dans 3 des 10 régions du pays, à savoir l'extrême nord, où elle combat les djihadistes de Boko Haram, et les 2 régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, où des séparatistes armés réclament l'indépendance. Ces derniers ont menacé d'empêcher le bon déroulement du scrutin dans leur région, quadrillée par les forces de sécurité, où l'État camerounais vient de décréter 2 jours de couvre-feu. Alors que ce lundi marque le premier anniversaire de la proclamation symbolique de l'indépendance des anglophones. Le point avec Idriss Fall.
Ce couvre-feu instauré dimanche et lundi dans les régions anglophones est en vigueur de jour comme de nuit. Il implique en particulier l'interdiction des transports publics et privés ainsi que la fermeture des entreprises et des débits de boissons selon le sous-préfet de Boya, chef-lieu de la région du sud-ouest. Les séparatistes ont promis de perturber le scrutin présidentiel du 7 octobre. 9 candidats sont en liste.
Les plus notables opposants au président Paul Biya, Joshua Ossi du SDF, le Social Democratic Front, principal parti d'opposition, Maurice Kamto du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Akere Mouna du Front Populaire pour le Développement, Ganga Amne Hadji de l'ADD, l'Alliance pour la Démocratie et le Développement, et Adamu Ndam Njovia de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun. Depuis son lancement le 22 septembre, la campagne a été marquée par la première sortie publique du président Paul Biya à Maroua, dans la région de l'extrême nord. De nombreux meetings ou encore des conférences de presse des candidats de l'opposition ont été organisés sur l'ensemble du territoire national, suscitant un certain engouement populaire. Le point de cette première semaine de campagne électorale au Cameroun avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
L'enjeu de la mobilisation populaire lors des meetings a été la principale attraction au cours de cette première semaine de campagne électorale, notamment dans la ville de Douala, où 4 candidats, Cabral Libi, Maurice Kamto, Franklin Difor Afangui et Akere Mouna, ont drainé chacun à son tour des milliers de personnes au lieu dit Stade Sikam. Quelques jours après, le RDPC, parti du candidat Paul Biya, va mobiliser à son tour de nombreux jeunes et commerçants à Yaoundé, à l'initiative du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, un militant du RDPC.
Vous savez, vous-même, ce que ils ont dit, ils disent que le président Paul Biya est un chef d'État qui a beaucoup d'expérience. Ils ont dit que les Camerounais ne veulent pas l'aventure au président Paul Biya parce qu'ils savent qu'il a la maîtrise des grands dossiers républicains.
Nouvelle réplique de l'opposition camerounaise au lendemain du premier meeting politique du président Paul Biya à Maroua. Cette fois, le candidat du MRC, professeur Maurice Kamto, réunit environ 8 à 10 000 personnes à l'esplanade du stade omnisports de Yaoundé, avec la participation de nombreux jeunes acquis à sa cause.
À partir du 16 octobre, nous allons voter et nous allons suivre nos votes. Nous avons essayé de regarder de fond en comble le projet politique que le MRC nous propose et avons donc opté à le soutenir afin que, après ce scrutin, il soit vainqueur.
La première semaine de campagne électorale au Cameroun a aussi donné lieu à un fait inédit, la déclaration des biens du candidat Akere Mouna.
Devant l'histoire, j'aurais pris ma responsabilité, j'aurais fait ce que je pense que chaque candidat à la présidence doit faire. J'aurais fait ce que la Constitution demande depuis 1996. Et comme nous tournerons, oh, la loi est trop compliquée, on ne sait pas comment on va le faire. Il y a des partis d'opposition qui le réclament. Mais qu'est-ce qui les empêche de même de poser 2 lignes? pour dire que j'ai deux bicyclettes et une maison.
C'est dans ce contexte de transparence que Election Cameroun, l'organe en charge d'organiser les scrutins, a dû rassurer tous les candidats à l'élection présidentielle sur l'utilisation des téléphones portables le 7 octobre prochain dans les bureaux de vote. Eric Essoussé, directeur général de Election Cameroun.
L'accès dans le bureau de vote du citoyen électeur avec son téléphone portable n'est pas interdit par la loi électorale. Les opérations de dépouillement du scrutin et le recensement des votes sont publiques. Elles se feront en présence des électeurs qui en manifestent le désir dans la mesure où la salle peut les contenir.
Une annonce qui a fait avorter une marche projetée par l'opposition devant le siège de Election Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Jurumtap. VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Mali, une vingtaine de civils touaregs ont été tués en fin de semaine par des assaillants armés dans le nord-est du pays, près de la frontière du Niger. C'est ce qu'annonce l'AFP, citant des sources concordantes. Vendredi et samedi, au moins 25 civils touaregs ont été tués à Amalaou-Laou par des hommes armés, a déclaré à l'AFP un élu local dont les propos ont été confirmés par une source de sécurité malienne. Un groupe armé, principalement Touareg, combattant les djihadistes dans cette région, avait fait état de 7 civils tués dans une attaque samedi contre cette localité. Au Nigeria, les deux principaux syndicats de salariés ont indiqué hier la suspension de leur grève après l'ouverture des discussions avec le gouvernement sur une hausse du salaire minimum. Le point avec Rosine Munezero.
Ayuba Waba, leader syndical nigérian, a annoncé hier la suspension de leur mot d'ordre de grève. Selon lui, le gouvernement a accepté de renouer le dialogue dans les prochains jours, les 4 et 5 octobre. Les syndicats réclament un salaire minimum entre 107 et 154 euros par mois, alors qu'il est actuellement de l'ordre de 42 euros. Le Congrès du travail du Nigeria, qui regroupe les ouvriers, et le Congrès syndical du commerce pour les cadres avaient appelé leurs membres du secteur public et privé à cesser le travail mercredi. La grève a été bien suivie le lendemain dans les administrations publiques. Seulement, les 36 États de la Fédération nigériane ont toujours fait part de leur opposition à une quelconque augmentation du salaire minimum. La plupart de ces États doivent encore plusieurs mois d'arriéré de salaire à leurs employés, malgré les renflements liquides dont ils ont bénéficié cette année de la part du gouvernement fédéral.
Sahara occidental, le Front Polisario qui lutte pour l'indépendance de cette ex-colonie espagnole du nord-ouest de l'Afrique a salué dimanche l'invitation à des discussions lancées par le médiateur de l'ONU, Horst Köhler, pour tenter de relancer un processus de paix moribond. Le Maroc, qui contrôle la majeure partie du territoire et en revendique la souveraineté, le Polisario ainsi que les deux pays voisins, l'Algérie, soutien du Polisario, et la Mauritanie, qui a contrôlé brièvement une partie du Sahara occidentale dans les années 1970, ont reçu vendredi dernier des invitations à se rendre à Genève les 5 et 6 décembre à cette table ronde. Actualité américaine maintenant, le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, se rend mardi à Paris pour des consultations avec le président français Emmanuel Macron et la ministre des Armées, Florence Parly. Il sera notamment question de la Syrie, Jean-Roger Bion.
Ce sera la première visite en France pour Jim Mattis depuis qu'il a pris ses fonctions de secrétaire à la Défense début 2017. Un porte-parole du Pentagone a assuré que M. Mattis va remercier la France et la féliciter pour des campagnes antiterroristes bien menées en Afrique occidentale et au Levant. Mais samedi, à la tribune des Nations Unies à New York, le chef de la diplomatie syrienne, Walid Mualem, a réclamé le départ immédiat des troupes françaises, américaines et turques du territoire syrien. Il avait dénoncé une coalition illégitime dirigée par les États-Unis sous prétexte de combattre le terrorisme. Washington espère que Paris maintiendra des forces dans le nord de la Syrie contrôlées par les forces démocratiques syriennes alliées de la coalition internationale. La France participe à la lutte contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie avec des avions de chasse et de l'artillerie, mais Paris n'a jamais communiqué de chiffres concernant ses forces spéciales qui conseillent les combattants kurdes. Après Paris, Jim Mattis doit participer mercredi et jeudi à Bruxelles à une réunion ministérielle de l'OTAN.
Et pour terminer, l'Iran a annoncé ce lundi avoir attaqué à coups de missiles des positions djihadistes dans l'est de la Syrie, en représailles à l'attentat ayant endeuillé le 22 septembre la ville iranienne d'Avaz, en affirmant qu'il ne s'agissait que d'un petit coup avant le châtiment véritable. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.